Chapitre 4, dans la ville impériale. Première partie, samedi 20 octobre. Il neige. Le ciel est bas et obscur, sans espoir d'éclaircie, comme s'il n'y avait plus de soleil. Un vent furieux souffle du nord et la poussière noire en pleine déroute tourbillonne de compagnie avec les flocons blancs. Ce matin, ma première entrevue avec notre ministre à la Légation d'Espagne. Sa fièvre est tombée, mais il est très faible encore et devra rester alité pendant bien des jours. Il me faut remettre à demain ou après-demain les quelques communications que je suis chargée de lui faire. Je prends mon dernier repas avec les membres de la Légation de France dans la maison du chancelier où l'on m'avait offert, à défaut d'un appartement somptueux, une si aimable hospitalité. Et à 1h30 arrivent les deux charrettes chinoises que l'on me prête pour mon émigration, avec mes gens et mon mince bagage, vers la ville jaune. Toujours très petites les charrettes chinoises, très massives, très lourdes et sans le moindre ressort. La mienne, d'une élégance de corbillard, est recouverte à l'extérieur d'une soie gris ardoise avec de larges bordures de velours noir. C'est vers le nord-ouest que nous nous dirigerons, du côté opposé à la ville chinoise d'hier et au temple du ciel. Et il y aura 5 ou 6 kilomètres à faire, presque au pas, vu l'état pitoyable des rues et des ponts où manque la moitié des dalles. Cela ne ferme pas les charrettes chinoises, c'est comme une simple guérite montée sur des roues, et aujourd'hui on y est battu par le vent glacial, cinglé par la neige, aveuglé par la poussière. D'abord les ruines, pleines de soldats, du quartier des légations, et aussitôt après, des ruines plus solitaires, presque désertes et tout à fait chinoises. Une dévastation poudreuse et grise, vaguement aperçue à travers les tourbillons blancs et les tourbillons noirs. Aux principaux passages, aux portes, aux ponts, des sentinelles européennes ou japonaises, toute la ville gardée militairement. Et de temps à autre, des corvées de soldats, des voitures d'ambulance portant le pavillon de la Croix-Rouge. Enfin, la première enceinte de la ville jaune, ou ville impériale, m'est annoncée par l'interprète de la Légation de France, qui a bien voulu m'offrir d'être mon guide et de partager ma charrette aux soies funéraires. Alors je regarde, dans le vent qui brûle mes yeux. Ce sont de grands remparts couleur de sang, à travers lesquels nous passons avec d'épouvantables chaos, non par une porte, mais par une brèche que les cavaliers indiens de l'Angleterre ont ouverte à coups de mine dans l'épaisseur des ouvrages. Pékin, de l'autre côté de ce mur, est un peu moins détruit. Les maisons dans quelques rues ont conservé leur revêtement de bois doré, leur rangée de chimères au rebord des toits. Tout cela, il est vrai, croulant, vermoulu ou bien léché par la flamme, criblé de mitraille. Et par endroits, une populace de mauvaise mine grouille encore là-dedans, vêtue de peaux de mouton et de loques en coton bleu. Ensuite reviennent des terrains vagues, cendres et détritus, où l'on voit errer, ainsi que des bandes de loups, les affreux chiens engraissés à la chair humaine qui, depuis cet été, ne suffisent plus à manger les morts. Un autre rempart du même rouge sanglant et une grande porte ornée de faïence par où nous allons passer. Cette fois, la porte de la ville impériale proprement dite, la porte de la région où l'on n'était jamais entré, et c'est comme si l'on m'annonçait la porte de l'enchantement et du mystère. Nous entrons, et ma surprise est grande, car ce n'est pas une ville, mais un bois. C'est un bois sombre, infesté de corbeaux qui croassent partout dans les ramures grises. Les mêmes essences qu'au temple du ciel, des cèdres, des thuyas, des saules. Arbres centenaires, tous ayant des poses contournées, des formes inconnues à nos pays. Le grésil et la neige fouettent dans leurs vieilles branches et l'inévitable poussière noire s'engouffre dans les allées avec le vent. Il y a aussi des collines boisées où s'échelonnent parmi les cèdres des kiosques de faïence. Et il est visible, malgré leur grande hauteur, qu'elles sont factices, tant le dessin en est de convention chinoise. Et dans les lointains, obscurcis de neige et de poussière, on distingue qu'il y a sous bois, çà et là, de vieux palais farouches aux toits d'émail, gardés par d'horribles monstres en marbre accroupis devant les seuils. Tout ce lieu, cependant, est d'une incontestable beauté. Mais combien en même temps il est funeste, hostile, inquiétant sous le ciel sombre. Maintenant voici quelque chose d'immense que nous allons un moment longer. Une forteresse, une prison, ou quoi de plus lugubre encore? Des doubles remparts que l'on ne voit pas finir, d'un rouge de sang comme toujours, avec des donjons à meurtrières et des fossés en ceinture, des fossés de 30 mètres de large remplis de nénuphars et de roseaux mourants. Ceci, c'est la ville violette, enfermée au sein de l'impénétrable ville impériale où nous sommes, et plus impénétrable encore. C'est la résidence de l'invisible, du Fils du ciel. Mon Dieu, comme tout ce lieu est funèbre, hostile, féroce sous le ciel sombre. Entre les vieux arbres, nous continuons d'avancer dans une absolue solitude, et on dirait le parc de la mort. Ces palais muets et fermés, aperçus de côté et d'autre dans le bois, s'appellent « Temple du Dieu des nuages »,« Temple de la longévité impériale » ou « Temple de la bénédiction des montagnes sacrées ». Et leurs noms de rêves asiatiques inconcevables pour nous les rendent encore plus lointains. Toutefois, cette ville jaune, m'affirme mon compagnon de route, ne persistera pas à se montrer aussi effroyable, car il fait aujourd'hui un temps d'exception, très rare pendant l'automne chinois, qui est au contraire magnifiquement lumineux. Et il me promet que j'aurai encore des après-midi de chaud soleil dans ce bois unique au monde où je vais sans doute résider quelques jours. Maintenant, me dit-il, regardez, voici le lac des lotus et voici le pont de marbre. Le lac des lotus et le pont de marbre, ces deux noms m'étaient connus depuis longtemps, noms de féerie, désignant des choses qui ne pouvaient pas être vues, mais des choses dont la renommée pourtant avait traversé les infranchissables murs. Ils évoquaient pour moi des images de lumière et d'ardentes couleurs, et ils me surprennent, prononcés ici dans ce morne désert, sous ce vent glacé. Le lac des lotus. Je me représentais, comme les poètes chinois l'avaient chanté, une limpidité exquise, avec de grands calices ouverts à profusion sur l'eau, une sorte de plaine aquatique garnie de fleurs roses, une étendue toute rose. Et c'est ça, c'est cette vase et ce triste marais que recouvrent des feuilles mortes roussies par les gelées. Il est du reste infiniment plus grand que je ne pensais, ce lac creusé de main d'homme, et il s'en va là-bas, là-bas, vers de nostalgiques rivages où d'antiques pagodes apparaissent parmi de vieux arbres sous le ciel gris. Le pont de marbre, oui, ce long arceau blanc, supporté par une série de piliers blancs, cette courbure gracieusement excessive, cette rangée de balustres à tête de monstre, cela répond à l'idée que je m'en faisais. C'est très somptueux et c'est très chinois. Je n'avais cependant pas prévu les deux cadavres en pleine pourriture sous leurs robes qui, à l'entrée de ce pont, gisent parmi les roseaux. Toutes ces larges feuilles mortes sur le lac, ce sont bien des feuilles de lotus. De près maintenant, je les reconnais. Je me souviens d'avoir jadis beaucoup fréquenté leurs pareilles, mais si vertes et si fraîches, sur les étangs de Nagasaki ou de Yedo. Il devait y avoir là en effet une nappe ininterrompue de fleurs roses, leurs tiges fanées se dressent encore par milliers au-dessus de la vase. Mais ils vont sans doute mourir, hein, ces champs de lotus, qui charmaient depuis des siècles les yeux des empereurs, car leur lac est presque vide, et ce sont les alliés qui en ont déversé les eaux dans le canal de communication entre Pékin et le fleuve, afin de rétablir cette voie que les Chinois avaient desséchée par crainte qu'elle ne servît aux envahisseurs. Le pont de marbre, tout blanc et solitaire, nous mène sur l'autre rive du lac, très rétréci en cet endroit, et c'est là que je dois trouver ce palais du Nord où sera ma résidence. Je n'aperçois d'abord que des enceintes s'enfermant les unes les autres, de grands portiques brisés, des ruines, encore des ruines et des décombres. Et sur ces choses, une lumière morte tombe d'un ciel d'hiver à travers l'opacité des nuages pleins de neige. Au milieu d'un mur gris, une brèche où un chasseur d'Afrique monte la faction. D'un côté, il y a un chien mort, de l'autre, un amas de loques et de détritus répandant une odeur de cadavre. Et c'est, paraît-il, l'entrée de mon palais. Nous sommes noirs de poussière, saupoudrés de neige, nos dents claquent de froid, quand nous descendons enfin de nos charrettes dans une cour encombrée de débris, où mon camarade, l'aide de camp, le capitaine C, vient à ma rencontre. Et vraiment, on se demanderait, à de tels abords, si le palais promis n'était pas chimérique. Au fond de cette cour, cependant, une première apparition de magnificence. Il y a là une longue galerie vitrée, élégante, légère, intacte à ce qu'il semble parmi tant de destructions. À travers les glaces, on voit étinceler des ors, des porcelaines, des soies impériales traversées de dragons et de nuages. Et c'est bien un coin de palais très caché que rien ne décelait aux alentours. Ô notre repas du soir d'arrivée, au milieu des étrangetés de ce logis, c'est presque dans les ténèbres. Nous sommes assis, mon camarade et moi, à une table d'ébène, enveloppés dans nos capotes militaires au collet remonté, grelottant de froid, servis par nos ordonnances qui tremblent de tous leurs membres. Une pauvre petite bougie chinoise en cire rouge, fichée sur une bouteille, bougie ramassée par là, dans les débris de quelque hôtel d'ancêtre, nous éclaire à grand-peine, tourmentée par le vent. Nos assiettes, nos plats sont des porcelaines inestimables, jaune impérial, marqué au chiffre d'un fastueux empereur qui fut contemporain de Louis XV. Mais notre vin de ration, notre eau trouble, bouillie et rebouillie par peur des cadavres qui empoisonnent tous les puits, occupe d'affreuses bouteilles qui ont pour bouchon des morceaux de pommes de terre crues taillés au couteau par nos soldats. La galerie où la scène se passe est très longue, avec des lointains qui vont se perdre en pleine obscurité et où s'esquissent vaguement des splendeurs de contes asiatiques. Elle est partout vitrée jusqu'à hauteur d'homme et cette frêle muraille de verre nous sépare seule du grand noir sinistre, plein de ruines et de cadavres qui nous environnent. On a le sentiment que les formes errantes du dehors, les fantômes qu'intéresse notre petite lumière, peuvent de loin nous voir attablés. Et cela inquiète. Au-dessus des glaces, c'est, suivant l'usage chinois, une série de châssis légers en papier de riz montant jusqu'au plafond, d'où retombent ici comme des dentelles de merveilleuses sculptures d'ébène. Mais ce papier de riz est déchiré, crevé de toutes parts, laissant passer sur nous les souffles mortellement froids de la nuit. Nos pieds gelés posent sur des tapis impériaux, jaunes, à haute laine, où s'enroulent des dragons à cinq griffes. À côté de nous brillent doucement, à la lueur de notre bout de bougie qui va finir, des brûle-parfums gigantesques, encloisonnés d'un bleu inimitable d'autrefois, montés sur des éléphants d'or. Des écrans d'une fantaisie extravagante et magnifique, des phénix d'émail éployant leurs longues ailes, des trônes, des monstres, des choses sans âge et sans prix. Et nous sommes là, nous, inélégants, pleins de poussière, traînés, salis, l'air de grossiers barbares, installés en intrus chez des fées. Ce que devait être cette galerie il y a 3 mois à peine, quand au lieu du silence et de la mort, c'était la vie, les musiques et les fleurs, quand la foule des gens de cour ou des domestiques en robe de soie peuplait ses abords aujourd'hui vides et dévastés, quand l'impératrice, suivie de ses dames du palais, passait dans ses atours de déesse. Ayant fini notre souper qui se composait de la modeste ration de campagne, ayant fini de boire notre thé dans des porcelaines de musée, nous n'avons pas le courage de prolonger pour l'heure des cigarettes et de la causerie. Non, ça a beau être amusant de se voir ici, ça a beau être imprévu et aux 3/4 fantastique, il fait trop froid, ce vent nous glace jusqu'à l'âme, nous ne jouissons plus de rien, nous préférons nous en aller et essayer de dormir. Mon camarade, le capitaine C, qui a pris possession en titre de ce lieu, me mène avec un fanal et un petit cortège dans l'appartement qu'il me destine. C'est au rez-de-chaussée, bien entendu, puisque les constructions chinoises n'ont jamais d'étage. Comme dans la galerie d'où nous venons, je n'ai là pour me séparer de la nuit extérieure que des panneaux de verre, de très légers stores en soie blanche et des châssis en papier de riz crevés de toutes parts. Quant à ma porte, qui est faite d'une seule grande glace, je l'attacherai avec une ficelle, car elle n'a plus de loquet. J'ai par terre d'admirables tapis jaunes, épais comme des coussins. J'ai un grand lit impérial en ébène sculpté, et mon matelas, mes oreillers, sont en soie précieuse, lamée d'or. Pas de drap et une couverture de soldat en laine grise. « Demain, me dit mon camarade, je pourrai aller choisir dans les réserves de Sa Majesté de quoi changer à mon caprice la décoration de cette chambre. Ça ne fera tort à personne de déplacer quelques objets. » Sur ce, il me confirme que les portes de l'enceinte extérieure et la brèche par où je suis entrée sont surveillées par des factionnaires, et il se retire dans son logis, sous la garde de ses ordonnances à l'autre bout du palais. Tout habillé et tout beauté comme dans la jonque, je m'étends sur les belles soies dorées, ajoutant à ma couverture grise une vieille peau de mouton, 2 ou 3 robes impériales brodées de chimères d'or, tout ce qui me tombe sous la main. Mes 2 serviteurs par terre s'arrangent dans le même style. Et avant de souffler ma bougie rouge d'autel d'ancêtre, je suis forcée de convenir en mon fort intérieur que notre ère barbare d'Occident a plutôt empiré depuis le souper. Le vent, dans l'obscurité, tourmente et déchire ce qui reste de papier de riz à mes carreaux. C'est au-dessus de ma tête comme un bruit continu d'ailes d'oiseaux nocturnes, de vols de chauves-souris. Et en demi-sommeil, je distingue aussi de temps à autre une courte fusillade ou un grand cri isolé dans le lointain lugubre.